Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs vont venir sonder l'intérieur et l'extérieur de nos vies en son, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres, des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Sans un qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La Troie sans un qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La Troie sans un qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La Troie sans un qui prenne nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les prendra. Ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les prendra.
Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit, dis-moi. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux. Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée et rends-toi à l'évidence que je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus. Partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution? Un mépris plus marqué? Un dédain plus signalé? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, nos serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Tribunal redoutable devant lequel frémit le crime et l'innocence même. J'invoque ta rigueur si je suis coupable. Mais écoute la vérité. L'ignorance et la mauvaise foi sont enfin parvenues à me traduire devant toi. Je ne cherchais pas cet éclat. Contente d'avoir servi, dans l'obscurité, la cause du peuple, j'attendais avec modestie et fierté une couronne distinguée que la postérité seule peut donner à juste titre à ceux qui ont bien mérité de la patrie. Pour obtenir cette couronne éclatante, il me fallait sans doute être en butte à la plus noire des persécutions. Il fallait encore plus, il me fallait combattre la calomnie, l'envie et triompher de l'ingratitude. Une conscience pure et imperturbable, voilà mon défenseur. Vieux esclaves des préjugés de l'Ancien Régime, valets gagés de la cour, républicains de quatre jours, il vous sied bien d'inculper une femme née avec un grand caractère et une âme vraiment républicaine. Vous me forcez à tirer vanité de ces avantages, dons précieux de la nature, de ma vie privée et de mes travaux patriotiques. Les taches que vous avez imprimées à la nation française ne peuvent être lavées que par votre sang, que la loi fera bientôt couler sur l'échafaud. En me précipitant dans les cachots, vous avez prétendu vous défaire d'une surveillante nuisible à vos complots. Frémissez, tyran moderne. Ma voix se fera entendre du fond de mon sépulcre. Mon audace vous met apifère. C'est avec le courage et les armes de la probité que je vous demande compte de la tyrannie que vous exercez sur les vrais soutiens de la patrie. Et vous, magistrats, qui allez me juger, apprenez à me connaître. Ennemis de l'intrigue, loin des systèmes, des partis qui ont divisé la France au milieu du choc des passions, Je me suis frayé une route nouvelle. Je n'ai vu que d'après mes yeux. Je n'ai servi mon pays que d'après mon âme. J'ai bravé les sots, j'ai frondé les méchants et j'ai sacrifié ma fortune entière à la Révolution. Quel est le mobile qui a dirigé les hommes qui m'ont impliqué dans une affaire criminelle ? La haine et l'imposture. Robespierre m'a toujours paru un ambitieux, sans génie, sans âme. Je l'ai vu toujours prêt à sacrifier la nation entière pour parvenir à la dictature. Je n'ai pu supporter cette ambition folle et sanguinaire et je l'ai poursuivi comme j'ai poursuivi les tyrans. La haine de ce lâche ennemi s'est cachée longtemps sous la cendre et depuis, lui et ses adhérents attendaient avec avidité le moment favorable de me sacrifier à sa vengeance. Les Français sans doute n'ont pas oublié ce que j'ai fait de grand et d'utile pour la patrie. J'ai vu depuis longtemps le péril imminent qui la menace et j'ai voulu par un nouvel effort la servir. Le projet des trois urnes développé dans un placard m'a paru le seul moyen de la sauver et ce projet est le prétexte de ma détention. Les lois républicaines ne promettaient qu'aucune autorité illégale ne frapperait les citoyens. Cependant, un acte arbitraire, tel que les inquisiteurs même de l'Ancien Régime, auraient rougi d'exercer sur les productions de l'esprit humain, viennent de me ravir ma liberté au milieu d'un peuple libre. À l'article 7 de la Constitution, la liberté des opinions et de la presse n'est-elle pas consacrée comme le plus précieux patrimoine de l'homme ? Ces droits, ce patrimoine, la Constitution même, ne serait-il que des phrases vagues ? Elle ne présenterait-il que des sens illusoires ? Hélas, j'en fais la triste expérience.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, asservies, humiliées, les femmes. Acheté, vendu, violé, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Les femmes et de nos sœurs séparées, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves.
Souvent, on m'a demandé d'écrire mes mémoires, mais j'ai toujours éprouvé à parler de moi une répugnance pareille à celle qu'on éprouverait à se déshabiller en public. Aujourd'hui, malgré ce sentiment puéril et bizarre, je me résigne à réunir quelques souvenirs. Je tâcherai qu'ils ne soient pas trop imprégnés de tristesse. Marie Ferré, mon amie bien-aimée, avait rassemblé déjà des fragments, que ces épaves portent son nom. Il est aussi celui de ma chère et bonne mère. Mon existence se compose de deux parties bien distinctes. Elles forment un contraste complet. La première, toute de songes et d'études. La seconde, toute d'événements, comme si les aspirations de la période de calme avaient pris vie dans la période de lutte. Je mêlerai le moins possible à ce récit les noms des personnes perdues de vue depuis longtemps, afin de ne pas leur causer la désagréable surprise d'être accusées de connivence avec les révolutionnaires. Qui sait si certaines gens ne leur feraient point un crime de m'avoir connu, et s'ils ne seraient pas traités d'anarchistes sans avoir précisément ce que c'est. Ma vie est pleine de souvenirs poignants. Je les raconterai souvent au hasard de l'impression. Si je prends pour ma pensée et ma plume le droit de vagabondage, on conviendra que je l'ai bien payé. J'avoue qu'il y aura du sentiment. Nous autres femmes, nous n'avons pas la prétention d'arracher le cœur de nos poitrines. Nous trouvons l'être humain, j'allais dire la bête humaine, assez incomplet comme cela. Nous préférons souffrir et vivre par le sentiment aussi bien que par l'intelligence. S'il se glisse dans ces pages un peu d'amertume, il n'en tombera jamais de venin. Je hais le moule maudit dans lequel nous jettent les erreurs et les préjugés séculaires. Mais je crois peu à la responsabilité. Ce n'est pas la faute de la race humaine si on la pétrit éternellement d'après un type si misérable et si, comme la bête, nous nous consumons dans la lutte pour l'existence. Quand toutes les forces se tourneront contre les obstacles qui entravent l'humanité, elle passera à travers la tourmente. Dans notre bataille incessante, l'être n'est pas et ne peut pas être libre. Nous sommes sur le radeau de la Méduse. Encore veut-on laisser libre la sinistre épave à l'ancre au milieu des brisants. On agit en naufragé. Quand donc, ô noir radeau, coupera-t-on la mare en chantant la légende nouvelle ? Au fond de ma révolte contre l'effort, je trouve, du plus loin qu'il me souvienne, l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s'enfouir sous la terre, jusqu'à l'oie dont on cloue les pattes, jusqu'au cheval qu'on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes des taureaux, la bête subit, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Des cruautés que l'on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, date avec ma pitié pour eux la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Cette réflexion ne pouvait manquer de me venir. Pardonnez-moi, chers amis des provinces, si je m'appesantis sur les souffrances endurées chez vous par les animaux. Dans le rude labeur qui vous courbe sur la terre marâtre, vous souffrez tant vous-même que le dédain arrive pour toutes les souffrances. Cela ne finira-t-il jamais ? Les paysans ont la triste coutume de donner de petits animaux pour jouer à leurs enfants. On voit sur le seuil des portes au printemps, au milieu des foins ou des blés couplés en été, de pauvres petits oiseaux ouvrant le bec à des mioches de 2 ou 3 ans qui y fourrent innocemment de la terre. Ils suspendent l'oiselet par une patte pour le faire voler, regardant s'agiter ses petites ailes sans plumes. Tout cela se fait sans y songer.
Le labeur écrase les parents. Le sort les tient comme l'enfant tient la bête. Les êtres d'un bout à l'autre du globe, des globes peut-être, gémissent dans l'engrenage. Partout, le fort étrangle le faible. Étant enfant, je fis bien des sauvetages d'animaux. Ils étaient nombreux à la maison. Peu importait d'ajouter à la ménagerie. Les nids d'alouettes ou de linottes me vinrent d'abord par échange. Puis, les enfants comprirent que j'élevais ces petites bêtes. Cela les amusa eux-mêmes et on me les donnait de bonne volonté. Les enfants sont bien moins cruels qu'on ne pense. On ne se donne pas la peine de leur faire comprendre. Voilà tout. En plongeant dans le passé, on le voit se joindre à l'avenir comme les deux extrémités d'un arc de cercle. Et ce cercle, pareil aux ondes sonores, en éveille d'autres à l'infini. Émiettées de par le monde, de l'Inde antique jusqu'à nous, les sciences perdues vont-elles germer ou sont-elles mortes dans la fleur? Faut-il attendre des fluves nouvelles d'autres recommencements? Suffira-t-il de retourner le sol pour donner aux germes du renouveau les conditions propres à l'existence? Combien de civilisations ont sombré? Combien d'hypothèses scientifiques se sont renversées devant d'autres hypothèses? Pourtant, allons. Allons toujours. N'a-t-on pas de quoi éteindre la lutte pour la vie? De quoi remplacer l'anxiété des estomacs, la misère générale par le bien-être général? D'ailleurs, les cerveaux devenant plus que jamais avides, il faudra bien pour les satisfaire que brille l'air nouvelle. Si l'amour de l'humanité est impuissant à faire sonner l'heure libératrice à l'horloge fraternitaire, heure où le crime n'aura plus de place, l'indignation s'en chargera. But I'm not the only one.
imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood.
Je suis née à Istanbul en 1967. J'ai grandi à la campagne, dans un climat de tension et de violence. Le sentiment d'oppression est profondément enraciné en moi. L'un de mes souvenirs, c'est à 4 ans et demi, lorsqu'on est venu chez nous, un camion rempli de soldats en armes. Ma mère pleure, les soldats emmènent mon père, ils le relâchent plusieurs heures après, parce qu'ils recherchaient quelqu'un d'autre. Mon père avait été un dirigeant important du principal syndicat étudiant de gauche. Mes parents ont planté en moi leurs idéaux de gauche, mais ils les ont ensuite abandonnés. Mon père est devenu un homme violent. Aujourd'hui, il est nationaliste. J'étais une enfant très solitaire qui n'allait pas facilement vers les autres. Très jeune, j'ai commencé à lire, sans avoir l'intention d'en faire mon métier. Je passais des journées entières dans les livres. La littérature a été mon premier asile. J'ai écrit un poème et une petite histoire que ma grand-mère a envoyé à une revue d'Istanbul. Mes textes ont été publiés, mais ça ne m'a pas plu du tout. J'étais bien trop timide pour pouvoir me réjouir. Plusieurs années plus tard, à 22 ans, j'ai écrit ma première nouvelle qui m'a valu un prix dans un journal. Je n'ai pas voulu que mon texte soit publié. J'étais alors étudiante en physique. Je suis partie faire des recherches sur les particules de haute énergie au Centre européen de recherche nucléaire de Genève. Je préparais mon diplôme le jour et j'écrivais la nuit. Je buvais et je fumais du haschich pour trouver le sommeil. J'étais terriblement malheureuse. En arrivant à Genève, j'avais pensé naïvement que nous allions discuter d'Einstein, de Higgs et de la formation de l'univers. En fait, je me suis retrouvée entourée de gens qui étaient uniquement préoccupés par leur carrière. Nous étions tous considérés comme de potentiels prix Nobel sur lesquels l'industrie misait des millions de dollars. Nous n'étions pas là pour devenir amis. C'est là que j'ai écrit le mandarin miraculeux. Au départ, j'ai écrit cette nouvelle pour moi seule, sans l'intention de la faire lire aux autres. Elle a finalement été publiée plusieurs années plus tard. Je suis retournée en Turquie, où j'ai rencontré Sokuna dans un bar reggae. Il faisait partie de la première vague d'immigrés africains en Turquie. Très rapidement, je suis tombée amoureuse de lui. Ensemble, nous avons vécu tous les problèmes possibles et imaginables. Perquisition de la police, racisme ordinaire. On se tenait la main dans la rue, les gens nous crachaient dessus, m'insultaient ou essayaient même de nous frapper. La situation des immigrés était alors terrible. La plupart étaient parqués dans un camp à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Plusieurs fois, j'ai essayé d'alerter le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU sur leur sort. Mais c'était peine perdue. Je ne faisais que nous mettre davantage en danger, Sokuna et moi. Puis Sokuna a été impliqué dans une histoire de drogue et il nous a fallu partir. Des amis m'ont trouvé une place dans une équipe de scientifiques au Brésil qui travaillait sur ma spécialité. Je pouvais y terminer mon doctorat, mais Sokuna n'a pas pu me suivre. Il a disparu un an après. Je suis restée seule avec mes remords. Rio n'est pas une ville facile à vivre pour les migrants. J'ai alors décidé de renoncer à la physique pour me consacrer à l'écriture. Mais ce n'est qu'à mon retour en Turquie que j'ai écrit La ville dont la cape est rouge, dont l'intrigue se passe à Rio. L'héroïne est une étudiante turque qui se perd dans l'enfer de la ville brésilienne. J'étais étrangère au Brésil, mais aussi étrangère en Turquie. Je ne me sens chez moi que lorsque j'écris. 20 ans plus tard, aujourd'hui, je me sens toujours comme une sans-abri. J'aime bien Cracovie. Je pourrais y rester encore longtemps, mais je sais bien qu'il faut laisser la place à ceux qui attendent un asile. Il faudra bien que je retourne en Turquie. En attendant, chaque jour, je me dis que dans mon pays, tout le monde sait bien que je suis devenue l'écrivaine turque la plus populaire. Tout le monde le sait. Mais pourtant, tout le monde se tait. C'est sans doute cela aujourd'hui, l'exil le plus terrible. Nous rirons plus tard. Pour l'instant, je vais vous emmener dans le bâtiment de pierre. Arrivé à l'angle de l'édifice, vous aurez l'impression d'être dans une impasse. Mais droit devant, au pied de l'escalier, la rue tourne à gauche. Vous vous arrêterez là pour dire adieu au monde des hommes. Le chemin qui nous a menés ici est sans retour. Dedans, nuit et jour, la lumière est allumée. Tout est exposé à une clarté violente et impitoyable, et chacun est réduit à son ombre. À chaque question, il faut faire une réponse brève. Une destinée tient en quelques phrases. Il faut avouer. Le temps n'a plus d'autre sens. L'homme est le plus vieux des mystères. C'est de la matière qui parle. Autrefois, j'ai aimé quelqu'un. Il est parti en me laissant ses yeux. Il n'avait personne à me laisser. Aimer. Ce mot-là, je l'ai trouvé en fouillant dans mon cœur, en sondant inlassablement ses épaisses ténèbres. Mais personne ne m'a dit que chacun tue celui qu'il aime. Nous étions ensemble dans l'édifice de pierre. J'ai longtemps prêté l'oreille au bruit. Quand mon tour est venu, le jour n'était pas encore levé. Bien sûr, vous ne me croyez pas. Vous pensez que ce bâtiment est issu de mon rêve. Mais nos rêves ne sont-ils pas le levain de la pâte dont nous sommes pétris ? Finalement, l'aube va naître. Des traînées rouges sang vont apparaître à l'horizon. Dans le ciel tendu, terne, tout plat, les étoiles vont se solidifier et disparaître l'une après l'autre. La dernière laissera pendre une corde vers le bas, vers nous. Ta nuit muette, tes mots coupés en deux et ensanglantés, tes ombres errantes, privées de leur maître, tes rêves couleur de cœur dont personne ne veut, tes mots ailés vont pouvoir y grimper. Tous tes rêves venus vivre parmi nous et repartis sans crier égard vont pouvoir se hisser vers les profondeurs, dans les tréfonds où se perd tout homme et toute chose. Mais vous ne m'entendez pas. J'aurais peut-être dû faire mon récit au passé. J'ai attaqué ma chanson dans le mauvais sens, par la mauvaise note. Si l'on veut écrire, on doit le faire avec son corps nu et vulnérable sous la peau. Les mots ne parlent qu'avec les autres mots. Prenez un V, un I et un E, et vous écrivez vie, à condition de ne pas vous tromper dans l'ordre des lettres, de ne pas, comme dans la légende, laisser tomber une lettre et tuer l'argile vivante. J'écris la vie pour ceux qui peuvent l'accueillir dans un souffle, dans un soupir, comme on cueille un fruit sur la branche, comme on arrache une racine. Il te reste le murmure que tu perçois en plaçant contre ton oreille un coquillage vide. La vie. Mots qui s'insinuent dans ta moelle et dans tes os, murmures évoquant la douleur, sons qu'emplissent les océans. Parfois pourtant, très rarement, j'entends en moi une voix qui ne semble ni émaner d'un être humain, ni s'adresser aux hommes. J'entends mon sang qui se réveille, coule de mes vieilles blessures, jaillit de mes veines ouvertes. j'entends des cris qui ravivent mes plus anciennes, mes plus authentiques terreurs. Et je me rappelle qu'ils sont nés du désir de vivre. Mes plaies ne parlent guère, mais elles ne mentent jamais. Pourtant, leurs cris affreux, incohérents, viennent se briser sur des murs infranchissables et retombent en pluie sur ce sol devenu mensonge que sont le visage et le verbe des hommes. Leur son s'égare dans les méandres, les recoins, les impasses d'un labyrinthe et se propage dans le vide sans rencontrer un seul cœur. Lettre de prison d'Asli Erdogan. Chers amis, collègues journalistes et membres de la presse, je vous écris cette lettre depuis la prison de Bakirkoy au lendemain de l'opération policière à l'encontre du journal Cumhuriyet, un des journaux les plus anciens et voix des sociaux-démocrates. Actuellement, plus de 10 auteurs de ce journal sont en garde à vue. 4 personnes, dont Kan Dundar, ex-rédacteur en chef, sont recherchées par la police. Même moi, je suis sous le choc. Ceci démontre clairement que la Turquie a décidé de ne respecter aucune de ses lois ni le droit. En ce moment, plus de 130 journalistes sont en prison. C'est un record mondial. En 2 mois, 170 journaux, magazines, radios et télé ont été fermés. Notre gouvernement actuel veut monopoliser la vérité et la réalité, et toute opinion, un tant soit peu différente de celle du pouvoir, est réprimée avec violence. La violence policière, des jours et des nuits de garde à vue. Moi, j'ai été arrêtée seulement parce que j'étais une des conseillères d'Özgür Gündem, journal kurde. Malgré le fait que les conseillères n'ont aucune responsabilité sur le journal, selon l'article 11 de la loi de la presse qui le notifie clairement, je n'ai pas été emmenée encore devant un tribunal qui écoutera mon histoire. Dans ce procès kafkaïen, Nekmiye Alpay, scientifique linguiste de 70 ans, est également arrêté avec moi et jugé pour terrorisme. Cette lettre est un appel d'urgence. La situation est très grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincue que le régime totalitaire en Turquie s'étendra inévitablement également sur toute l'Europe. L'Europe est actuellement focalisée sur la crise de réfugiés et semble ne pas se rendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie. Actuellement, nous, auteurs, journalistes, Kurdes, Alevis et bien sûr les femmes, payons le prix lourd de la crise de démocratie. L'Europe doit prendre ses responsabilités en revenant vers les valeurs qu'elle avait définies après des siècles de sang versé et qui font que l'Europe est l'Europe. La démocratie, les droits humains, la liberté d'opinion et d'expression. Nous avons besoin de votre soutien et de solidarité. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant. Cordialement, Asli Erdogan, de sa prison.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, mais qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté! Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, descendre humain. Donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est eux qui nous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais s'ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats,
au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Mon ange parle, m'aime, aime, jouer, passer. Mon ange passe, me travaille l'âme et continue pour que je puisse donner pensée, arriver, intéresser, arrêter, trouver, regarder, souhaiter. Réveiller, demander, écouter, rester, en paix, quitter, en paix, admirer, entrer, dîner, organiser, rencontrer, monter, énerver, s'énerver, enfermer, discuter, tomber, présenter, débrayer, guerroyer, épicer, modérer, purger, sonder, gommer, divaguer, envenimer, siroter, en jouer. Mon ange parle, mon ange aime jouer, passer, travailler, continuer, donner, penser que mon âme va arriver à s'intéresser, à arrêter toutes ces conneries, trouver, regarder, souhaiter, réveiller, demander, écouter. Mon ange parle, aime jouer, aime donc jouer mon âme pour traquer, traquer. Traquer, redoubler, picorer, accroire, culpabiliser, sans se culpabiliser, réévaluer, reverdir, présumer, imputer, appairer, enrouler, tamponner, enjouer, sonder, siroter, structurer, réciter, préméditer, méditons, parler, aimer, jouer, passer. Ne faire que passer. Méditons. Mais ne dit-on pas que parler, c'est aimer, c'est jouer, c'est passer, c'est travailler, c'est continuer, c'est donner, ses pensées, arrivées, intéressées. Tout s'embrouille, tout se mélange. Mais c'est bon, car mon ange me parle. Mon ange aime jouer, passer, travailler, continuer, donner, trouver, écouter, enfermer, débrayer, sonder, enjouer, présumer, à croire. Mon ange me parle. Ce soir, nous parlons, nous aimons, nous jouons, nous passons, nous travaillons, nous continuons, nous donnons, nous pensons, nous arrivons, nous intéressons, nous arrêtons, nous trouvons, nous regardons, nous souhaitons, nous réveillons, nous demandons, nous écoutons, nous restons, nous quittons, nous admirons, nous entrons, nous dînons, nous organisons, nous rencontrons, nous montons, nous nous énervons, nous enfermons, nous discutons, nous tombons, nous présentons, nous débrayons, nous guerroyons, nous immigrons, nous acclimatons, nous fracturons, nous structurons, nous récitons, nous préméditons, méditons, 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 acclimatons. Mon ange parle. Mon ange parle. Mon ange aime jouer, passer, travailler. Mon âme est fracturée. Mes croyances terrestres. Mon ange parle. Mon ange aime jouer. Mon ange aime jouer.
I'm a bunny. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Come here, you. No, I won't. No.
Wait.
I'm hungry, right?
No.
No, I won't.
Please.
Be afraid.
Don't eat me.
Just as long as you stare.
Don't do it.
Stand by me. Nom, 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 nom. Nom, nom. By me. Oh, stand by me. Oh, stand. Won't you stand? Stand by me. Come here. Come here, you. Come here. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom.
Oh, I wish I could sing like that.
You do?
Yeah, it saved me the cost of a car alarm.
C'est toi? C'est bien toi? C'était il y a si longtemps. Je suis si vieux maintenant quand je rêve. Je rêve que je rêvais de toi. Depuis cette fenêtre ouverte, sur ce jardin potager, orange et vert, et toi, nue, ébène, dans l'ombre qui dansait sur des feuilles jaunes, dans l'automne de notre été, j'entends encore le son de la douceur de la maison et de la terre craquelée, boire la fuite de ce satané robinet que je n'ai jamais réparé. Une porte s'est entrouverte, une lumière s'allume et son flux emporte le petit chat roux dans la cour. Surpris, tout comme nous autres, de revoir le temps d'un temps s'ouvrir, éclairé dans ce halo dansant de poussière. Tes pas tournent autour de l'ombre d'un sol, elle fait disparaître ton corps et laissant ton âme. À mon cœur battant, clac, la porte s'est refermée. Mes mains cherchaient la clé sur mon visage, dont les yeux s'étaient aveuglés. Pas de clé, pas de porte, simplement le cœur d'un vieil arbre au printemps. Pas de clé, pas de porte. Autour de mon lac, tenant dans mes mains ce souvenir, nos retenues d'eau à lâcher et partir sans fin ramper. Souvent, quand je m'immerge dans mes tristesses aux profondeurs lacustres, joyeuse, tu reviens danser et tes pas me ramènent toujours face à ce bon vieux saule. Dans l'ombre magique m'ouvre une porte sans clé. Tu ris dans l'infini des lueurs de ce monde. Tu ris dans l'infini des lueurs du monde. Il suffisait de la pousser, cette porte. J'ai compris que c'est comme la démence et la béatitude d'un baiser secret. J'arrête jamais d'y penser. C'est la démence et la béatitude d'un baiser secret. J'y penserai peut-être quand je dormirai toujours, quand je serai en paix dans tes cheveux de prairie, quand l'océan bercera mon navire loin des gouttes de pluie de la vie. De ses rives à la dérive. Et puis, aussi, j'y penserai à cette bonne pinte de bière. J'arrête mes tocs, tic-tac. J'arrête mes tocs, tic-tac. J'arrête mes tacs, toc, tic. Ces cordes qui m'attachent à la vie, si fortes, et moi, si fragile. Ça m'en fait tourner la tête. C'est si bon d'être là. Quand je dormirai toujours, je penserai à tout ça. La démence et la béatitude d'un baiser secret.
Hey, I'm a bunny. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Come here, you. No, I won't. No.
Wait,
no. I'm afraid.
No.
No, I won't.
Please.
Be afraid.
Don't eat me.
Just as long as you stand.
Don't do it.
Stand by me. Nom, 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 nom. Nom, nom. By me. Oh, stand by me. Oh, stand. Won't you stand? Stand by me. Come here. Come here, you. Come here. Come. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom.
Oh, I wish I could sing like that.
You do?
Yeah, it saved me the cost of a car alarm.
Si le jour de vos noces, en rentrant, vous mettez votre femme à tremper la nuit dans un puits, elle est abasourdie. Elle a beau avoir toujours eu une vague inquiétude. Tiens, tiens, se dit-elle. C'est donc ça, le mariage ? C'est pourquoi on en tenait la pratique si secrète ? Je me suis laissé prendre en cette affaire. Mais étant vexée, elle ne dit rien. C'est pourquoi vous pourrez l'y plonger longuement et maintes fois, sans causer aucun scandale dans le voisinage. Si elle n'a pas compris la première fois, elle a peu de chances de comprendre ultérieurement et vous avez beaucoup de chances de pouvoir continuer sans incident, la bronchite exceptée, si toutefois ça vous intéresse. Quant à moi, ayant encore plus mal dans le corps des autres que dans le mien, j'ai dû y renoncer rapidement. Voyez-vous, le physique du spermatozoïde de l'homme ressemble étrangement à l'homme. À son caractère, veux-je dire, quand je vais bien, quand je vais mieux. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Le physique de l'ovule de la femme ressemble étonnamment au caractère de la femme. L'un et l'autre sont très petits. Le spermatozoïde est très, très long et véritablement saisi d'une idée fixe. L'ovule, quant à elle, exprime l'ennui et l'harmonie à la fois. Son apparence est de presque une sphère. Tous les spermatozoïdes ne sont pas comme celui de l'homme, tant s'en faut. Celui du crabe, et davantage encore celui de l'écrevisse, ressemble à la corolle d'une fleur. Ses bras souples, rayonnants, ne semblent pas à la recherche d'une femelle, mais du ciel. Cependant, étant donné la reproduction régulière des crabes, on suppose bien qu'il en va autrement. En fait, on ne sait rien du ciel du crabe. Quoique à bien des gens, il soit arrivé d'attraper des crabes par les pattes pour mieux les observer. On sait moins encore du ciel que du spermatozoïde du crabe. Je repars dans mon village. Autrefois si gai, maintenant un village désert. Un homme, sous un auvent, attendait la fin de la pluie. Où, or, il gelait ferme. Il n'y avait aucune apparence de pluie avant longtemps. Un cultivateur cherchait son cheval parmi les œufs. On venait de le lui voler. C'était jour de marché. Innombrables étaient les œufs dans d'innombrables paniers. Certes, le voleur avait pensé de la sorte décourager les poursuivants. Dans une chambre de la Maison Blanche, un homme entraînait sa femme vers le lit. « Veux-tu, lui dit-elle, s'il se trouvait que je fusse ton père ?»« Tu ne peux être mon père, répondit-il, puisque tu es femme, et puis nul homme n'a de père. » Tu vois, toi aussi, tu es inquiet. » Il sortit accablé. Un monsieur en habit le croisa et dit « Aujourd'hui, il n'y a plus de reine. Inutile d'insister, il n'y en a plus. » Et il s'éloigna avec des menaces. Le géant Barabeau, en jouant, arracha l'oreille de son frère Poumapi. Poumapi ne dit rien, mais comme par distraction, il serra le nez de Barabeau et le nez fut emporté. Barabeau, en réponse, se baissa, rompit les orteils de Poumapi et, après avoir d'abord feint de vouloir jongler avec, les fit disparaître prestement derrière son dos. Poumapi fut surpris, mais il était trop fin joueur pour en rien marquer. Il fut au contraire celui que quelques orteils de moins ne privent pas. Cependant, par esprit de riposte, il faucha une fesse de Barabeau. Barabeau, on peut le croire, tenait à ses fesses, à l'une comme à l'autre. Cependant, il dissimula son sentiment et, reprenant tout de suite la lutte, arracha avec une grande cruauté unie à une grande force la mâchoire inférieure de Poumapi. Poumapi fut désagréablement surpris sans sa mâchoire, mais il n'y avait rien à dire. Vu qu'il ne pouvait plus parler, il n'avait plus de mâchoire. Ah, que le monde est cruel! Le coup était franc, il avait été exécuté en face sans tricherie aucune. Poumapi essaya même de sourire et ce fut aussi dur que de parler. Oh, ce fut si dur! L'âge héroïque dans un village de fous.
Thank you.
Des arbres affairés cherchent leurs branches qui s'arrachent, qui éclatent et tombent. Des arbres affolés, traqués. Des arbres comme des systèmes nerveux ensanglantés. Mais pas d'être humain dans ce drame. L'homme modeste ne dit pas « je suis malheureux ». L'homme modeste ne dit pas « nous souffrons, les nôtres meurent, le peuple est sans abri ». L'homme modeste dit « nos arbres souffrent face au verrou ». Contre les alvéoles, contre la colle face au verrou, la colle les uns les autres, le doux les uns les autres, cactus, flamme de la noirceur impétueuse, mer des dagues, racine des batailles, s'élançant dans la plaine, course qui rampe. Rampement qui vole, unité qui fourmille, bloc qui danse, un défenestré enfin s'envole, un arraché de bas en haut, un arraché de partout, un arraché jamais plus rattaché, face au verrou. Face au verrou, homme arc-bouté, homme au bon, homme dévalant, homme pour l'opération éclair, pour l'opération tempête, pour l'opération saguée, pour l'opération harpon, pour l'opération requin, pour l'opération arrachement. Face au verrou, homme non selon la chair, mais par le vide et le mal et les flammes intestines et les bouffées et les décharges nerveuses et les revers et les retours et la rage et l'écartèlement et l'emmêlement et le décollage dans les étincelles. Face au verrou. Face au verrou, abstraction de toute géométrie. Mouvement d'écartèlement et d'exaspération intérieure, plus que mouvement de la marche. Mouvement d'explosion, d'implosion, de refus, d'étirement en tous sens. D'attraction malsaine, d'envie impossible face au verrou. Faite de tâches, gamme des bras, mouvement. On saute dans le rien face au verrou. Le poète d'habitude en s'en fout. Mais c'est le premier qu'on arrête face au verrou. Immédiat, sans pause. Geste de la vie ignorée. Vie impulsive face au verrou. Alors, agis et viens. Poussant la porte en toi, je suis entré. Agir. Je viens, Asli. Je suis là, Asli. Je te soutiens, Asli. Tu n'es plus à l'abondant, Asli. Tu n'es plus en difficulté, Asli. Ficelle déliée, Asli. Tes difficultés tombent, Asli. Le cauchemar d'où tu revins à garde n'est plus ou ne sera plus. Je t'épaule, Asli. Tu poses avec moi, Asli. Le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin qui te porte, qui te monte, qui t'accomplit. Je t'apaise, je fais des nappes de paix en toi. Je fais du bien à l'enfant de ton rêve. Afflue, Asli, afflue en palme sur le cercle des images de la peurée, Asli. Afflue sur les neiges de sa pâleur, afflue sur son âtre et le feu s'y ranime pour tous les enfermés de cette terre, pour Chokan qui pourrit dans une prison, malade, tout ça parce qu'il fait de la photographie, pour Asli Erdogan qui se fait enfermer par des salauds. Nous te soutenons, nous poétisons ta révolte et ton cœur. Nous te soutenons, prions l'univers pour que cette peste ne vienne pas rapidement dans quelques semaines dans notre beau pays de liberté.
Regarde le monde et dis-moi si tu aimes. Regarde ce monde et dis-moi si tu vois ta place. Regarde ce monde et dis-moi si tu es honnête. Regarde ce monde et dis-moi que l'amour existe. Regarde ce monde et dis-moi si tu as envie d'y vivre. Regarde ce monde, regarde ton monde. Ce monde est ton monde. Des histoires, on se raconte des histoires aux souvenirs qui tournent dans sa tête. Ce soir c'est la fête, la muse en musette, le nez en trempette. Tout ça ce n'est que des histoires de poètes, poètes, de poètes qui puent, qui pètent. Trop plein, 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 trop plein. Trop plein d'amour, de solitude, de misère et d'absence. Ce soir c'est la fête, des poètes qui puent, qui pètent. Des histoires qu'on se raconte dans nos têtes. Ce soir c'est la fête, la muse en musette, le nez en trompette. Et regarde le monde et dis-moi si tu aimes. Regarde ce monde et dis-moi si tu vois ta place. Regarde ce monde et dis-moi si tu es honnête. Regarde ce monde et dis-moi que l'amour existe. Regarde ce monde et dis-moi si tu as envie d'y vivre. Regarde ce monde et dis-moi si tu t'arranges avec ton cœur à te raconter des histoires, on se raconte des histoires dans nos têtes, aux souvenirs qui traînent. Ce soir c'est la fête, la musant musette, le néant trompette. Tout ça, ce n'est que des histoires de poètes, poètes, de poètes qui puent, qui pètent. Trop plein, 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 trop plein d'amour, de solitude, de misère, d'absence. Ce soir, c'est la fête des poètes qui puent, qui pètent. Et regarde ce monde et dis-moi, regarde le monde et dis-moi si tu aimes. Regarde le monde et dis-moi si tu vois ta place. Regarde ce monde et dis-moi si tu es honnête. Regarde le monde et dis-moi que l'amour existe. Regarde le monde et dis-moi si tu as envie d'y vivre. Regarde le monde et dis-moi si tu t'arranges avec ton cœur. Quand tu te racontes des histoires, des histoires, on se raconte des histoires aux souvenirs qui traînent dans la tête. Ce soir c'est la fête, la muse en musette, le nez en trompette. Tout ça ce n'est que des histoires de poètes, poètes, de poètes qui pètent. D'amour, trop plein de solitude, trop plein de misère, trop plein d'absence. Ce soir c'est la fête des poètes qui puent, qui pètent. Regarde le monde, regarde ce monde, regarde ton monde, regarde le monde et dis-moi si tu aimes. Regarde le monde et dis-moi si tu vois ta place. Regarde ce monde et dis-moi si tu es honnête. Regarde le monde et dis-moi que l'amour existe. Regarde ce monde et dis-moi si tu as envie d'y vivre. Regarde ce monde, regarde ce monde, regarde ce monde. Et te raconter des histoires, des histoires, des histoires qu'on se raconte aux souvenirs qui traînent dans la tête. Ce soir c'est la fête, la muse en musette, le nez en trompette. Tout ça ce n'est que des histoires de poètes, poètes, de poètes qui puent, qui pètent. Trop plein, 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 trop plein d'amour, trop plein de solitude, trop plein de misère, trop plein d'absence. D'amour, de solitude, de misère et d'absence. Ce soir c'est la fête des poètes qui puent, qui pètent. Regarde ce monde et dis-moi si tu aimes. Regarde le monde et dis-moi si tu vois ta place. Regarde ce monde, regarde ce monde, regarde ton monde. Trop plein, 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 trop plein.
Vous étiez dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu ce soir les sons des oiseaux de la forêt, les musiques de Piaf, Beethoven, la compagnie Joli Môme, Berlioz, John Lennon, Nina Simone, la version surprenante et très drôle de Stand By Me des Muppet Show, Eric Satie, Camille Saint-Saëns, Nick Cave, Monsieur Sakamoto.
Et le trio juste avant que les mots sonnent.
Vous avez entendu les textes d'Olympe de Gouges, Louise Michel. Particulièrement ce soir, très émouvant, les lettres d'Asli Ordogan, lues par Nathalie Vautier. Les textes d'Henri Méchaud que je vous ai lus sont édités chez Gallimard. C'est un recueil qui s'appelle « L'espace du dedans ». Découvrez ce poète qui a fait un travail énorme et qui peut être très très drôle quand on rentre dedans. Vous avez ce soir à la technique Monsieur Christophe Beck et Nathalie Vautier qui nous a lu ses textes. Merci beaucoup et bonsoir. Merci à vous tous, merci à vous chers auditeurs de nous écouter et de nous réécouter sur www.fréquencemistral.com. Merci, c'est une émission qui nous tient à cœur. Ce soir, c'était particulièrement poignant et un petit peu déstabilisant. Il y a cette dame qui, parce qu'elle écrit et parce qu'elle dit ce qu'elle a sur le cœur, est enfermée par un salopard. Attention de ne pas voter pour des salopards. Ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y aura des oreilles suffisamment ouvertes pour entendre et que ça aille jusqu'au cœur, surtout. On a toujours le choix de laisser la lumière rentrer ou laisser les volets fermés. Prochaine émission, fin décembre, dernier jeudi du mois. Bye bye, ciao.